Et voici Anne-Laure Chouin qui vous présente les informations. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. La Syrie et l'Iran ciblés par Israël ces derniers jours. Hier, une frappe a tué 8 hauts responsables iraniens dans une ambassade à Damas. Conséquence du conflit à Gaza où 4 humanitaires étrangers sont morts hier.
Les complotistes sont de retour auprès de Donald Trump malgré les tentatives de sa nouvelle équipe de campagne pour les empêcher de revenir.
En France, nous reviendrons sur la nouvelle journée de mobilisation dans l'éducation nationale contre les groupes de niveau. Et après ce journal, Marguerite Caton, ce sera votre question du jour.
Nous parlerons de l'autisme. Un nom pour combien de maladies ?
L'armée israélienne parle d'un incident tragique, référence à la mort hier d'humanitaires travaillant pour une ONG livrant de l'aide à Gaza, l'ONG World Central Kitchen, fondée par le cuisinier américano-espagnol José Andrés. Selon le Hamas, 4 étrangers figurent parmi les victimes ainsi que leur chauffeur palestinien. Leur véhicule aurait été frappé dans le centre de la bande de Gaza par un tir israélien. La Maison Blanche vient de réagir en disant, je cite, avoir le cœur brisé. L'armée israélienne, elle, dit essayer de comprendre les circonstances du drame et assure avoir pourtant travaillé en étroite collaboration avec cette ONG pour sa distribution d'aide, notamment dans la construction d'une jetée à Gaza où un premier bateau avait déchargé sa cargaison sous la supervision de l'armée. On le voit, après presque 6 mois, le conflit ne s'apaise donc en rien. Il n'en finit pas non plus de s'étendre dans la région où les milices iraniennes du Hezbollah, notamment, sont très actives. Hier, une frappe aérienne attribuée là encore à Israël a justement visé l'ambassade d'Iran à Damas en Syrie. 8 personnes ont été tuées selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, parmi eux un haut gradé iranien. Les précisions depuis Beyrouth de Noé Pignède.
Tué dans la frappe sur le consulat iranien de Damas, Mohamed Reza Zehedi était le responsable des gardiens de la révolution iranienne en Syrie et au Liban. C'est donc lui qui était en charge de coordonner l'action des différentes milices financées par la République islamique comme le Hezbollah, des milices engagées aux côtés du Hamas dans la guerre contre Israël. Avant d'occuper ce poste, il a successivement été le commandant des armées de l'air et de terre iraniennes. C'est donc une des principales figures militaires du régime des Mollahs qui vient d'être assassiné. À ses côtés, 2 autres généraux ont également été tués. Ce ne sont pas les premiers chefs de l'axe iranien à être visés par Israël. Le pays mène une campagne d'assassinats ciblés depuis plusieurs mois, mais cette attaque est une escalade majeure dans la région. C'est la première fois qu'une ambassade est bombardée. L'Iran promet une riposte d'ampleur qui pourrait se traduire par de nouvelles attaques de ses milices contre Israël, mais aussi contre les troupes américaines stationnées dans toute la région.
Alors justement, comment va riposter l'Iran? Quels sont ses moyens pour le faire? Téhéran a promis une réponse décisive à ce ciblage systématique par Israël des hauts responsables de la République islamique en Syrie et au Liban. Les précisions de Christian Chéneau.
L'Iran n'entend pas être pris dans l'engrenage d'une escalade militaire avec Israël qui pourrait lui coûter cher. Il ne faut donc pas s'attendre à une réponse immédiate et directe contre l'État hébreu. Quant à la fin de l'année dernière, les Israéliens avaient liquidé par un tir de missile dans la banlieue sud de Damas un autre important commandant de la force El-Quds, l'unité extérieure des gardiens de la Révolution. La riposte iranienne était venue quelques semaines plus tard de façon indirecte. Les Iraniens avaient alors mené, à la mi-janvier, une attaque au Kurdistan irakien contre un quartier général d'où opéraient, selon eux, les services de renseignement extérieur de l'État hébreu. Les représailles iraniennes pourraient aussi être sous-traitées à ses alliés dans la région, notamment au Hezbollah libanais, déjà impliqué dans des échanges de tirs avec l'armée israélienne, aux rebelles yéménites, les Houthis, qui depuis le 7 octobre attaquent en mer Rouge les navires commerciaux israéliens et tirent des missiles à destination du port d'Elat. Sans parler du Hamas et du djihad islamique dont les dirigeants viennent d'être reçus il y a quelques jours à Téhéran par Ali Khamenei, le guide de la révolution.
Enfin, en Israël, Benjamin Netanyahou, toujours en but aux manifestations d'une partie de sa population, annonce vouloir interdire la diffusion de la chaîne Qatari Al Jazeera dans le pays. Une loi récemment votée l'autorise à le faire. Il évitera la saisie humiliante d'une partie de son patrimoine. Hier, Donald Trump a déposé une garantie de 175 millions de dollars devant la justice américaine après sa condamnation à 454 millions de dollars d'amende pour fraude financière au mois de février. Un dépôt de garantie qui équivaut donc à une caution avant son procès en appel. Mais avant cela, un autre procès commence bientôt. À partir du 15 avril, l'ancien président et actuel candidat sera jugé au pays pénale, cette fois pour des paiements cherchant à étouffer des affaires embarrassantes en 2016, notamment 130 000 $ pour acheter le silence d'une ancienne star du porno, l'affaire dite Stormy Daniels. En attendant, Donald Trump continue sa campagne où l'on voit réapparaître des personnalités que son équipe essaye pourtant de maintenir à distance, les complotistes. À Washington, Sébastien Power.
Les conseillers de la campagne de 2016, Paul Manafort et Corey Lewandowski, sont les premiers à ressortir du bois. Manafort a passé 2 ans en prison. Il a été condamné à 7 ans et demi pour fraude bancaire et fiscale, mais il a été libéré à cause de la pandémie de Covid. Lewandowski était le premier directeur de campagne de Trump en 2016, remercié parce que l'épouse d'un gros donateur l'a accusé de comportement inapproprié. On revoit aussi beaucoup Roger Stone ces derniers temps à Mar-a-Lago, le confident presque historique de Trump. Lui a été reconnu coupable d'entrave à une enquête du Congrès sur la campagne de 2016. Il a écopé de 40 mois de prison, mais Trump l'a gracié. Il était à sa soirée de victoire lors du Super Tuesday début mars. Tous ces gens reproposent leur service, mais l'entourage de l'ancien président n'est pas très pour. Certains conseillers les appellent les fous, qu'il ne faut plus fréquenter. Trump voulait embaucher la militante d'extrême droite Laura Loomer, mais la co-directrice de campagne Susie Wiles s'y est opposée. Même chose pour l'ancien ambassadeur en Hongrie sous Trump, qui voulait embaucher un stratège de Viktor Orban. Refus. L'équipe Trump 2024 n'est plus celle de 2016 ni de 2020, et ses responsables essayent de toujours être au moins un avec Trump pour filtrer les invités potentiellement préjudiciables politiquement. Sauf que Trump connaît personnellement ses infréquentables et les appelle parfois en direct. C'est comme ça que le nationaliste Nick Fuentes s'est retrouvé à dîner avec lui à Palm Beach en 2022.
Lui est en passe de devenir le plus jeune président du Sénégal. À 44 ans, il va prêter serment aujourd'hui Bassirou Diomaye Faye, élu contre l'ancien président Macky Sall au terme d'une période troublée mais qui a finalement vu la transition démocratique l'emporter. Il sera donc intronisé officiellement président du Sénégal. Ce 2 avril, celui qu'on peut qualifier de panafricaniste de gauche, élu sur la promesse de rupture avec le système en place, va devoir faire face à des défis considérables, baisse du coût de la vie, emploi des jeunes, lutte contre la corruption ou encore souveraineté alimentaire.
7h07 sur France Culture, la suite du journal d'Anne-Laure Chouin. En France, une nouvelle journée de grève des professeurs, c'est ce mardi.
Oui, des enseignants et des parents toujours aussi remontés contre la réforme dite des groupes de niveau que tient à mettre en place Gabriel Attal au collège dès l'année prochaine, groupe de niveau en français et en mathématiques. Une partie des syndicats d'enseignants dans le SNES FSU majoritaire ainsi que certaines fédérations de parents d'élèves appellent donc aujourd'hui à une nouvelle mobilisation. Quand bien même ces grèves commencent à peser sur le budget des enseignants, ils sont tellement remontés qu'il n'est pas question pour eux d'abandonner. C'est ce qu'a pu constater Hakim Kasmi.
Thomas Perrault est professeur d'histoire-géographie au collège Stendhal à Toulouse, un établissement classé en REP+, qui concentre une grande partie d'élèves en difficulté, des difficultés qui risquent selon lui de s'accroître avec la mise en place des groupes de niveau qui vont demander beaucoup de moyens humains et financiers.
Si on fait 3 groupes de niveau dans mon collège, c'est le groupe des « entre guillemets forts » qui se retrouve à effectifs réduits, parce qu'on en a très très peu. Donc ça n'a pas de sens si vous voulez. Donc nous on veut garder des classes hétérogènes comme elles existent, et utiliser des moyens pour faire des dédoublements, ce qui fait plus ses preuves. Les collègues de français ont expérimenté des groupes de besoins, groupes de niveau, il y a quelques années, et ils en sont revenus. C'est-à-dire que le constat, c'est que le groupe dit les faibles, c'était mission impossible de les faire progresser, quoi.
Des enseignants qui manifesteront également aujourd'hui pour dénoncer le manque de moyens, à l'image de Capucine Lizardière, professeure d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis, un département où manque déjà cruellement de professeurs.
Il y a certaines disciplines, par exemple en physique-chimie, où les professeurs ne sont pas remplacés. Donc un professeur absent plusieurs mois, non remplacé, ça peut mettre en difficulté, par exemple, les élèves de seconde pour choisir la spécialité physique-chimie en première. Et donc ça peut être un obstacle à ce qu'ils suivent l'orientation de leur choix. Et des rapports parlementaires, d'ailleurs, sur la Seine-Saint-Denis, ont mesuré qu'un élève perd en moyenne, au cours de sa scolarité, une année du fait du non-remplacement des professeurs absents. En fait, l'État manque à ses devoirs, en privant les élèves d'une partie de leur scolarité.
Avec cette nouvelle journée de mobilisation, les syndicats espèrent maintenir la pression sur le ministère de l'Éducation nationale, mais aussi sur Gabriel Attal, qui est à l'origine de la réforme du choc des savoirs.
C'est un procès qui s'inscrit dans l'histoire de l'ETA, organisation indépendantiste basque, celui qui s'ouvre aujourd'hui à Paris, devant le tribunal correctionnel. Deux personnes, la journaliste Béatrice Moll-Aran et l'écologiste Jean-Noël Etcheverry, sont accusées d'avoir porté, transporté et détenu des armes et des explosifs en relation avec l'organisation terroriste ETA. Les faits se sont produits le 16 décembre 2016 à Louossoa, dans les Pyrénées-Atlantiques. Les prévenus avaient décidé par eux-mêmes d'entamer le désarmement de Théa après l'annonce de l'abandon de la lutte armée. On y reviendra largement dans le journal de 8 heures. Les élections européennes, vous en parlerez avec vos invités dès matin, Guillaume. Alors qu'en France, les sondages donnent le Rassemblement national largement en tête du scrutin, au point que le combat contre l'extrême droite est devenu l'un des arguments de campagne non seulement de la majorité présidentielle, mais aussi de la gauche. Comment les forces de la gauche française abordent-elles ce scrutin ? On fait le point avec Sophie Delpont.
Tout faire pour éviter le match annoncé entre le Rassemblement national et Renaissance, c'est ce que répètent les candidats à gauche en ordre dispersé. Alors que pour la France insoumise, l'objectif c'est déjà 2027, comme l'a annoncé Jean-Luc Mélenchon lors de son entrée en campagne. Le chef de file LFI, en place non éligible sur la liste menée par Manon Aubry, tiendra plusieurs meetings sans l'eurodéputé dans les prochaines semaines. Pour les insoumis, l'idée est à la fois de mobiliser au maximum les abstentionnistes, envers qui LFI a mené une campagne polémique ciblant des personnalités médiatiques, et dans le même temps d'enjamber le scrutin du 9 juin pour lequel aujourd'hui la dynamique semble pour l'instant favorable à Raphaël Glucksmann. Le candidat à tête de liste Place Publique PS, crédité de 11 à 13% d'intention de vote, s'est montré très offensif lors du premier débat face au RN Thierry Mariani. Le 9 juin donnera un aperçu de l'équilibre des forces à gauche pour bâtir une nouvelle alliance, espère un cadre socialiste, alors que Léon Desfontaines, tête de liste communiste, met en avant ses différences, notamment avec Raphaël Glucksmann. De leur côté, les écologistes peinent à mobiliser. Ils multiplient les actions de terrain, comme celle menée la semaine dernière devant le siège de Total Énergie à la Défense par la tête de liste Marie Toussaint. Les écologistes qui ne seraient crédités que de 8% des intentions de vote, faisant jeu égal avec la France insoumise, très loin des 30% estimé du Rassemblement national.
On termine ce journal en levant les yeux au ciel pour y observer une nouvelle étoile qui devrait briller ces jours-ci juste à côté de l'étoile polaire. Ce phénomène n'est pas nouveau, il a été identifié pour la première fois au Moyen-Âge, avant de revenir ensuite tous les 80 ans, d'où son nom de Nova récurrente. À chaque fois, son apparition mobilise de nombreux astronomes et cette fois-ci, son rayonnement particulièrement intense devrait donc la rendre visible à l'œil nu dans l'hémisphère nord. Son petit nom, T. Coronae Borealis. Réalise les explications de Cécile de Kervas-Douai.
Pendant longtemps, l'humanité a cru que le ciel était quelque chose d'immuable. Platon, par exemple, pensait que rien ne bougeait au-delà de la Lune. L'apparition d'un nouvel astre avait donc de quoi fasciner, raconte Éric Lagadec. Il est astrophysicien au laboratoire de la Côte d'Azur.
La première fois que ça arrivait, c'était pas une nova, c'était une supernova, c'était en 1054. Les Chinois l'ont observé, ils ont appelé ça l'étoile nouvelle ou l'étoile invitée. Donc pendant longtemps, on s'est posé la question de ce que c'était, puis on s'est rendu compte que c'était des étoiles mourantes, en fait, qui explosaient.
Car les étoiles naissent, évoluent et meurent. Et c'est ce que raconte l'histoire de cette nova récurrente. En 1217, l'abbé Burchard du prieuré d'Ursberg, en Bavière, écrit qu'il a observé quelque chose de merveilleux dans la constellation de la couronne boréale et qui a inhabituellement brillé d'une grande lumière pendant plusieurs jours. Ce même phénomène sera observé et surtout chroniqué en 1787, puis en 1866 et 1946, soit à peu près tous les 80 ans, comme l'a établi un astronome américain de l'Université de Louisiane. C'est donc en avril 2024 que T. Coronae Borealis brillera à nouveau, d'où l'engouement des astrophysiciens qui regardent le ciel ces jours-ci pour mieux comprendre ce que sont ces novas récurrentes, dont on ne connaît que 5 spécimens, précise encore Éric Lagadec.
Une nova récurrente, c'est un système en fait, de 2 étoiles. Donc il y a une étoile qui est déjà morte, en gros c'est un soleil mort, ça s'appelle une naine blanche, avec une autre étoile autour. Et l'étoile morte, comme il y en a une à côté qui donne du gaz, va accréter du gaz de son étoile compagnon. Et de temps en temps, il y en aura trop, ça va faire une explosion nucléaire et ça va former une nova qui peut être assez spectaculaire, notamment celle-là, parce qu'elle peut être assez facilement visible à l'œil nu.
Et surtout, s'il s'agissait de sa toute dernière explosion, celle de l'étoile tout entière, ce qui n'est pas exclu.
Une nova récurrente qui sera peut-être difficile à voir étant donné la couleur du ciel aujourd'hui, dominée par des averses et du vent dans la moitié nord. Vigilance rouge pour crue en Bourgogne. Sur le quart sud-ouest, le ciel sera plutôt lumineux, puis faiblement pluvieux, soleil sur le sud-est. Les températures 4 à 8 degrés ce matin, 12 à 19 cet après-midi. C'est la fin de ce journal et la suite des matins de culture, Guillaume Erner.
Merci Anne Lorchouin avec dans quelques secondes la question du jour de Marguerite Caton, autisme. Un nom pour combien de maladies ?